merci Valérie. Donc Valérie vous a montré un géant de l'engagement religieux. Il m'appartient de vous montrer un géant de l'engagement humanitaire, étant entendu que les deux engagements s'imbriquent presque tout le temps dans la démarche de Louis Appia. Alors, je vais simplement essayer de vous montrer, année après année, étape après étape, des exemples de son engagement humanitaire. Nous nous rappelons, il est né en 1818, et déjà en 1842, il a 24 ans, il retourne à Francfort, il est docteur en médecine, en chirurgie. Et c'était une époque où on était aussi ophtalmologue, on était aussi gynécologue. Bref, les médecins sont tout à fait polyvalents. On n'est pas encore spécialisé. Et avec deux amis, il ouvre une clinique ophtalmique à Francfort. Et nos collègues allemands nous disent que c'était une clinique qui était destinée aux pauvres, aux déshérités. Donc là, on a une première manifestation d'une démarche qui vise à s'occuper, à prendre soin des déshérités, des pauvres, des vulnérables, et pas forcément des clients qui rapportent de l'argent. Nous savons qu'en 1848, l'Europe est déchirée par des terribles révolutions. Celle de la Suisse était de 1947, elle a réussi. Toutes les autres vont échouer. Et toutes les autres vont être réprimées de façon extrêmement brutale. À Paris et à Francfort, nous savons que Louis Appia y va comme chirurgien de guerre. C'est sa spécialité maintenant. Et vous savez bien que pour un chirurgien spécialisé en soins pour des blessures par balles, on a besoin de combat, on a besoin de bataille. Et donc, 1848, pour lui, c'est à la fois une révélation et c'est fantastique. Mais pour l'instant, nous n'avons là que des informations de tradition familiale. Donc là, il faudra encore documenter. Mais c'est vraisemblable. En revanche, quelques années après, en 1955, donc il est déjà établi à Genève, mais depuis 5-6 ans, on a une épidémie de choléra, et là, il est appelé à monter en première ligne, c'est-à-dire qu'il va soigner des malades ou des agonisants, soit dans les quartiers pauvres de la ville, soit dans la région de Malval, Satigny, où se construit une ligne de chemin de fer. Naturellement que les ouvriers qui travaillent là-bas sont dans des conditions hygiéniques épouvantables et ils tombent comme des mouches, dit-il lui-même. Et là, donc, on a aussi un engagement en première ligne. On ne savait pas soigner le choléra et un médecin pouvait tout aussi bien l'attraper que les autres. Il y a un épisode juste après 1860 qui pour nous est intéressant, c'est que à la fois il veut monter dans l'échelle sociale, il veut s'imposer comme médecin, il veut il est animé d'une véritable ambition de réussite. Et alors il participe à des concours. C'était la mode, les grands concours. Et alors l'Académie française ouvre un concours sur la manière de soigner des tumeurs. Et Louis Appia participe à ce concours et il présente un dossier très complet que personne n'avait vu jusqu'à ce que j'ai l'occasion d'y aller avec Valérie en mars dernier. Et on voit de nouveau les personnes qu'il soigne, les cas qu'il signale, ce sont tout le temps des enfants ou des jeunes appartenant à la classe la plus déshéritée de Genève. C'est assez révélateur. Mais là, il ne remporte pas le concours. Ce qui fait qu'on l'oublie et qu'on vient de le redécouvrir. Et puis, toujours la même année, 60, il participe à un concours à Naples. C'était une académie très célèbre, l'Accademia Pontaniana de Naples, une académie médicale. Et le thème, c'est le transport des militaires blessés. Là, il présente un dossier qui remporte la médaille d'or. Et pour lui, c'est une consécration, mais c'est en même temps, ça nous montre qu'il s'est donné une spécialité, la chirurgie de guerre, et que là, il commence véritablement à s'imposer. Il faut dire que l'année 1859, donc juste avant ses concours, il a vécu l'expérience des guerres d'Italie. Donc par son frère Georges, qui est pasteur en Piémont, il apprend que la guerre va être terrible, et le 13 mai 1859, il lance un appel humanitaire à la population genevoise par l'organe du journal de Genève pour des dons de charpie, d'habits, de tisane et autres produits dont on a besoin pour soigner les blessés. Cet appel du 13 mai est pour nous très intéressant parce qu'il faut savoir que l'appel d'Henri Dunant arrivera le 9 juillet, donc 6 ou 7 semaines plus tard. Et là, on voit que Louis Appiat est antérieur à Henri Dunant dans la démarche humanitaire. Il en va de même en termes de publication, puisque vous savez qu'Henri Dunant publie Un souvenir de Solferino en octobre-novembre 1862, alors que Louis Appiat publie Le chirurgien à l'ambulance, Valérie l'a cité, à l'automne 1859, 3 ans avant Henri Dunant. Donc on voit qu'il a le véritable précurseur d'une sensibilité humanitaire pour les militaires blessés, avec une volonté de lancer cette question sur la place publique. C'est pas Dufour, c'est pas Moigné, c'est pas Monnoir, c'est pas Dunant, c'est Appiat. Et là, c'est un point qu'on a oublié, que nous sommes heureux de restaurer maintenant. Vous ne serez donc pas du tout étonné que lorsque Dunant et Moigné lancent l'idée de société de secours aux militaires blessés, donc c'est l'hiver 62-63, Louis Appiat est un des plus fervents partisans de ce projet. On peut juste signaler que dans les séances de la Société genevoise d'utilité publique, dans les deux premières fois où on prononce ce projet, c'est un non, c'est un refus. C'est au troisième passage qu'on obtient qu'une commission soit créée, et cette commission, elle est composée de 3 personnes seulement. Moigné, Dunant, Appiat. Et ce n'est que 8 jours plus tard qu'on arrive à se rabibocher avec Dufour et avec Monnoir, qui vont former le fameux comité des 5. Donc on voit aussi que là, dans l'engagement médical, l'engagement sanitaire, Louis Appiat est en première ligne. Et vous ne serez pas étonné si, en février 63, il participe à la création de la Croix-Rouge genevoise, et que le 17 mars, il soit envoyé comme délégué de la Croix-Rouge internationale dans la guerre du Schleswig-Holstein, donc cette guerre qui oppose d'un côté le Danemark, de l'autre côté la Prusse et puis l'Autriche, et lui sera le représentant de la Croix-Rouge naissante du côté des vainqueurs, c'est-à-dire les Allemands et les Autrichiens et les Prussiens. Et cette expérience est très importante pour lui. Apparemment, il ne soigne pas les blessés, mais il a pour mission de présenter le projet de conférence internationale et de convention de Genève aux chirurgiens de guerre autrichiens et prussiens. Et là, il est confronté avec la réalité de ceux qui doivent soigner les blessés sur les lignes de front. Et il va sortir un rapport en juin 64, donc avant la Convention de Genève, et c'est un rapport extrêmement important, parce qu'il conclut en disant « Il faut renoncer à l'idée d'avoir une convention diplomatique autour des sociétés de secours, et il faut se centrer sur une chose uniquement, c'est la protection des chirurgiens de guerre. » C'était exactement ce qu'Henri Dunant avait préconisé depuis septembre, mais que le comité international, Moigné en tête, avait refusé. Et alors, on peut dire que l'intervention d'Appiat en juin 1964, elle est déterminante. Et ensuite, nous avons la Convention de Genève qui est signée le 22 août 1964, la fameuse première Convention de Genève, à l'élaboration de laquelle ni Apia, ni Montnoir, ni Dunan ne sont associés. Ce sont que les représentants des États qui participent à cette conférence. Mais signalons que les deux médecins, Montnoir et Apia, organisent en parallèle au palais de l'Athénée des réunions avec les médecins des pays qui participent à la conférence diplomatique. Et là aussi, il a un rôle en tant que spécialiste des questions de chirurgie de guerre. Donc nous voyons que pour la naissance de la Croix-Rouge, il est précurseur. Ensuite, je pourrais dire qu'il se fait doubler par Moignet, parce qu'il y a une guerre de pouvoir, ça ne sert à rien de le cacher, pour savoir qui sera le grand chef. Et Moignet arrive, il écarte Montnoir, il écarte Dunan, il écarte Apia, et lui, le général Dufaux, de toute façon, il ne cherche plus la gloire, il a plus de 75 ans, il est en dehors du combat. Mais c'est intéressant pour nous parce qu'on va voir que l'engagement humanitaire d'Apia va se décaler légèrement. Il ne va pas donc se réaliser exclusivement dans l'œuvre internationale. Mais il ne se dispute pas avec Moignet, comme Dunan s'est disputé, et il va rester jusqu'à la fin membre du comité international, mais toujours en retrait, et parfois en cessation. Moi, j'aime bien dire que Louis Apia est une sorte d'électron libre de l'humanitaire. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi ? En 1966, on a une guerre entre l'Italie et l'Autriche. Le chirurgien de guerre flaire l'odeur du sang frais. Pour lui, c'est intenable. Et il décide, avec son frère Georges, qui est pasteur en Italie, au Piémont, il décide de créer une ambulance et ils partent sur les champs de bataille. L'armée royale italienne n'en veut pas et ils se font accepté par l'armée de Garibaldi. Je vous rappelle que Garibaldi, c'est aussi un rebelle. C'est un libre penseur, c'est un républicain, et son armée est formée de volontaires qu'on envoie dans les zones les plus dangereuses, en l'occurrence le Trentino, c'est-à-dire la région des Alpes autrichiennes de l'époque. Et Louis Apia et son équipe vont avec leur équipement et l'aide de comités locaux de la Croix-Rouge italienne, ils vont se trouver par hasard sur la ligne de front au moment de la bataille de Bezzecca. Et pour un chirurgien de guerre, l'expression va vous choquer, mais c'est la jouissance suprême. Il a des soldats blessés qui lui arrivent tout frais. Et tout de suite, il peut déployer ses talents, mais tout de suite aussi, ils sont submergés. Mais c'est une expérience absolument incroyable qu'il vit. Elle est d'autant plus incroyable que le comité international, dont il est membre, lui a refusé une mission. Il y va à titre privé. Et naturellement, quand il rentre, ils se font donner une lettre de remerciement de Garibaldi qui est simplement fantastique. Et naturellement, que Louis Apia va publier tout ça, va faire des mémoires dans la presse, des petits bouquins, etc. Vous imaginez l'ambiance qu'il devait y avoir dans les séances du comité. À cette époque-là, comme par hasard, les procès-verbaux de cette période, on ne les a pas retrouvés. Mais on voit que là, il y a une volonté d'indépendance, une volonté d'aller sur l'endroit où on peut être le plus utile, quitte à balancer un certain nombre de principes, comme la collégialité, comme d'obéir à son président, et toutes sortes de choses. Ah oui, puis un autre principe, c'est que dans leur bagage, ils ont naturellement des pansements, des habits, des médicaments, toutes sortes de choses. On n'a pas encore beaucoup de médicaments à l'époque, mais quand même. Mais qu'est-ce qu'ils ont en plus? Je crois que Valérie l'avait cité. Ils ont des petits ouvrages en italien de promotion des idées évangéliques. La foi du soldat. Comment servir son roi? Comment mourir pour son roi? Quelles sont les dernières prières à donner? Et c'est des petites choses qu'ils distribuent un tout petit peu à gauche et à droite. Alors, chez Apia, il y a en permanence confusion entre l'humanitaire et, on pourrait dire, l'évangélisation ou le missionnaire. Et vous devinez que ce n'est pas ça qui va arranger les relations entre Appia et notamment Moigny. Mais pour nous, Valérie l'a montré, il y a cette imbrication très forte. Si nous sautons quelques années, nous arrivons en 1870, la guerre entre la France et l'Allemagne, non seulement la Prusse, mais tous les États allemands, on est en juillet 1870. Alors là, on a le procès verbal. Et on voit très bien que le CICR refuse d'envoyer Louis Appia comme chirurgien de guerre du côté allemand. Pourquoi ? Prétexte, on n'a personne à envoyer du côté français. Alors Louis Appia, il ne se fait pas trop d'idées, il saute dans le train, il y va, et puis il va soigner les blessés du côté allemand. Il est très bien introduit. Un, l'allemand, c'était sa langue de travail. Et puis deux, il est très lié au milieu évangélique allemand, dont le futur empereur Frédéric, qui est pour l'instant le fils du roi, c'est le Crown Prince. Et on le sait par des lettres ultérieures que cette cellule de la famille royale qui va devenir impériale allemande, prussienne, est intimement impliquée dans les milieux évangéliques. Donc, Louis Appia, il a là des boulevards. Alors, il envoie des lettres au comité international en expliquant ce qu'il fait et puis en disant, au secours, il faut nous envoyer du matériel. Et quel matériel est-ce qu'il demande? Parce qu'il est très précis, des culottes, parce qu'il y a le choléra, il y a toutes sortes de choses. Donc, vous imaginez qu'il faut changer les habits des blessés de nombreuses fois, et du vin rouge. Et il précise plusieurs fois du bon vin rouge. Je vous rappelle qu'on est dans la région de Metz, c'est-à-dire une région en France où le vin d'habitude est très bon. Mais apparemment, on en manque. Je pense qu'il a été tout sifflé par les soldats, mais c'est la demande explicite. Et on a des lettres tout à fait précises où il fait ses demandes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je n'ai pas pu trouver les réponses. En revanche, ce qui est amusant, c'est que il écrit aussi des lettres au journal de Genève et à d'autres journaux de l'Église qui relatent ses activités, au point que le comité international note dans une de ses séances du tout début 71, Monsieur Moigny est invité à parler au directeur du journal de Genève pour qu'il ne reproduise plus les lettres de Monsieur Appia. Donc, vous voyez de nouveau un engagement en première ligne. Et lui, quand il va avec une armée, bon, les Allemands sont en train de gagner, mais quand vous êtes dans une armée en campagne, c'est difficile, c'est dangereux, et ce n'est pas une promenade de santé. Puis là, il soigne les blessés, mais en même temps, il réclame sa liberté d'action contre un peu toutes les règles. Et donc, l'expérience de 70 confirme l'expérience de 66. Ensuite, nous le trouvons, donc, très peu de temps après, en 72, Appia nous montre ça aussi son sens, son goût du voyage, son goût de la communication. Et nous le retrouvons fin 72, et puis dans un autre voyage, début 73, au Caire, en Égypte. Et là, il y va, cette fois-ci avec une mission. Il n'y avait pas de guerre, donc ça risquait moins d'être ennuyeux. Il a une mission, c'est de convaincre le vice-roi d'Égypte de signer la Convention de Genève. Alors, il se trouve qu'à l'époque, le vice-roi d'Égypte a un suzerain, c'est le sultan. Et la Turquie a adhéré à la Convention de Genève. Alors, le vice-roi d'Égypte, qui a déjà assez de soucis avec son supérieur, si on peut dire, refuse. Ce qui nous intéresse, c'est que nous apprenons par la correspondance que Louis Appia avait aussi l'intention, le projet là-bas, de créer un hôpital ophtalmique. Parce qu'il y avait beaucoup de maladies liées aux eaux stagnantes du Nil en Égypte. Puis finalement, il rentre parce qu'on a l'impression qu'il y a eu des soucis de famille. Il devait rentrer pour s'occuper de sa famille. Mais on le voit de nouveau, c'est l'aventure, c'est voyager, c'est voir des gens nouveaux, c'est diffuser, c'est communiquer, c'est soigner. C'est un personnage qui nous donne quasiment un tournis, n'est-ce pas? Alors ensuite, il va rester à Genève. Donc là, dans les deux années 72-73, je vous rappelle qu'il décédera en 1898. Donc on a encore presque un quart de siècle devant nous. Alors, on sait qu'il est allé passer des examens à la faculté de médecine de Paris. On pense à un moment qu'il souhaitait faire sa carrière à Paris. Son frère y est pasteur à ce moment-là. Alors, il réussit ses examens, mais finalement, il ne s'installera pas. Alors, on sait qu'il voyage, continue de voyager. Par exemple, il participe aux grandes conférences internationales de la Croix-Rouge. C'est Paris, c'est Berlin, c'est Karlsruhe, c'est Genève. Il est là un représentant très, très écouté et très respecté du comité international. On sait aussi qu'il participe à des grands congrès médicaux. C'est Bruxelles, c'est Vienne, où on s'occupe à la fois de techniques pour la médecine de guerre et aussi de techniques pour la médecine sociale. Parce qu'on a vraiment l'impression que cette dernière tranche de sa vie, il la consacre à la médecine sociale. C'est-à-dire qu'il multiplie les publications et les conférences sur l'hygiène de l'enfance, sur la pharmacie domestique, sur les méfaits de l'alcool et la lutte contre les microbes. Pasteur vient de montrer que la vie microbienne est déterminante pour l'hygiène en général. Et là, Appiah en fourche ce nouveau combat très vite, parmi les premiers. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit dans sa correspondance familiale qu'il dit « Ah oui, on m'a encore demandé de parler, je ne sais pas, un cercle de dames, une fois de plus, bénévolement. » Parce que je n'ai pas l'impression que financièrement, il soit très à l'aise. Et c'est vrai qu'il a une vie très engagée, mais qui ne rapporte pas. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il... Oui, on peut le dire qu'il sort... Il s'étiole, il dépérit progressivement. Mais il reste ferme dans ses engagements et on a encore une conférence qu'il prononce en 1893 sur la naissance de la Croix-Rouge. Alors là, naturellement, on voit toujours la rivalité entre lui, Dunant, Moynier, n'est-ce pas? Alors, il dit très clairement, le souvenir de Solferino, c'est Dunant. Ça, c'est clair, alors que... il y avait un certain nombre de fake news pour dire que, en fait, Dunant avait simplement volé le manuscrit d'un oncle et puis qu'il l'avait signé lui-même. Là, Appiah, alors, il est clair et net. Mais on a l'impression qu'il souffre, en fait, d'un manque de reconnaissance, un manque de célébrité, alors que Moynier trône, naturellement, au firmament. Mais la fin des années 1890, Henri Dunant est en train de revenir en premier rang, grâce à, notamment à un dénommé Rudolf Müller en 1896-1897. Mais Dunant s'est déjà engagé à ce moment-là dans la lutte contre le militarisme. Et il devient une des figures emblématiques des mouvements pacifistes, dès les années 92-93. Et il redevient célèbre, sauf à Genève, mais partout ailleurs. Et alors, on a vraiment l'impression que la fin de la vie d'Appiah, c'est vraiment la conséquence d'une sorte de déséquilibre permanent entre un engagement et un défaut, si j'ose dire, de reconnaissance, un engagement pour l'humanitaire, mais aussi pour sa foi, et le tout dans un climat de nostalgie. Et on a un témoignage vraiment de la fin de sa vie où il se compare à un aigle aux ailes coupées. Et je pense que c'est une image assez dramatique pour nous montrer que ce grand homme a aussi vécu la situation d'être qui vivait au-dessous de l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Je vous remercie.